Capitale de Boutikassa. Je suis tout à fait d'accord.
Moi, c'est André de Mbouimaï, au Kassa Oriental. Je réfute totalement ce que tu
dis. Moi, c'est Céline de Lubumbashi, au Kassanga. Je pense qu'on peut, en combinant les deux avis de mes précédents, trouver une solution par rapport à ça.
Bonjour à tous et merci de votre fidélité à Okapi, la fréquence de la paix, qui vous accorde la parole. Le 25 novembre de chaque année, le monde célèbre la journée internationale pour l'élimination de la violence à l'égard des femmes. Selon plusieurs rapports, les sévices et tortures infligées par des hommes à des millions de femmes sont réelles, raison pour laquelle plusieurs organisations humanitaires unissent leurs forces pour que cette journée décrétée par les Nations Unies soit une occasion d'attirer l'attention de l'opinion publique sur les violences perpétrées quotidiennement à l'encontre des femmes. À marge de cette journée, nous vous accordons la parole dans cette émission avec comme question au cœur du débat, selon vous, quels sont les mécanismes à mettre en place pour éliminer en RDC les violences à l'égard des femmes? Notre standard est déjà ouvert pour vous permettre de réagir. Composez le 081 890 43 39 pour votre intervention en direct. Et vous avez également la possibilité de nous déposer vos commentaires sur notre page Facebook. Tété Poutou, Hérité Sidiakala et Pierrot Elameji réalisent cette émission. Et J.R. Lungembo vous la présente et coordonne sous la supervision de Nicole Gaka. Bienvenue à tous.
Parole aux auditeurs pour participer 081 890 63 15 ou par internet pa@radiookapi.net.
Parole aux auditeurs, J.R. Lungembo.
Nous avons dans ce studio Madame Rumbu, directrice générale de l'Agence nationale de lutte contre les violences faites à la femme et à la jeune fille. Madame, bonjour.
Bonjour.
Et merci d'avoir répondu à notre invitation. Nous vous rappelons, chers auditeurs, que vous êtes nombreux à avoir eu déjà l'inscription pour participer à cette émission. Nous allons vous accorder la parole dans quelques instants. Pour nous, d'abord, de planter les décors avec notre invitée, Madame, la RDC est signataire des textes juridiques internationaux et nationaux. Notre constitution elle-même garantit d'ailleurs le droit de la femme, mais malgré cela, il y a persistance des situations de violence. Pourquoi, si vous pouvez nous en faire une idée?
Effectivement, comme vous venez de dire, la RDC a pris énormément d'engagement dans le cadre de l'adhésion et à la signature du texte qui prône la promotion et la protection des droits de la femme. Et vous dites bien que malgré l'adhésion à ces signatures, malgré à ces textes, malgré l'adoption de ces textes, la persistance de violations des droits de la femme est constatée, c'est tout à fait normal. C'est-à-dire que ça, c'est signer les documents, c'est le fait de gouvernants, mais l'appliquer, c'est le fait des citoyens. Alors, il y a un effort qui doit être fait au niveau de la sensibilisation des citoyens pour leur dire que les droits de la femme, c'est aussi les droits de l'homme qui est tout à fait normal de pouvoir le respecter, de pouvoir respecter la femme et de pouvoir sauvegarder son intégrité et sa dignité.
Donc si je comprends bien, quand on parle d'une femme violée, il s'agit là d'une femme victime de ses droits qui sont bafoués.
Tout à fait, tout à fait. Donc c'est à l'atteinte à sa dignité et la violation de droits, on atteint son intégrité physique. Et ça, c'est une violation grave du droit de la femme.
Voilà. Alors, quelle est aujourd'hui la situation de la femme violée en RDC? Parce que nous savons, selon un rapport des humanitaires, 1100 cas de violations sexuelles sont recensés chaque mois. C'est depuis 1996. Est-ce qu'aujourd'hui la situation a évolué positivement?
La situation a évolué positivement, mais avec la situation qui prévaut dans l'est du pays, il y a avoir beaucoup de craintes pour voir que il y a une sorte de pic de violence, parce que les armes, les hommes en armes sont tout à fait sévères dans les violations massives des droits de la femme. Il y a énormément de cas de viols. Et puis après, il faut savoir que cette atteinte de l'intégrité met la personne, la victime, dans une situation d'inertie. Il y a des cas qui sont reportés, ce sont des cas qui sont comptés, les cas qui sont dénoncés, ce sont ces cas-là qu'on connaît, mais il y a d'autres cas qu'on ne connaît pas. Et parce que vous savez, pour une famille, quand on a violé l'enfant, mais on se dit, dois-je étaler ça sur la place publique et mettre en cause l'avenir de l'enfant? Et parce qu'à ce moment-là, c'est son avenir tout à fait qui est hypothéqué, le mariage est mis entre parenthèses. Et alors, c'est pour ça qu'il y a des cas qui sont tués. Et nous aurons bien voulu que ces cas soient dénoncés parce que les viols qui ne sont pas dénoncés, eh bien, réconfortent les auteurs. Alors, on voudrait vraiment que le voile soit levé et que le silence soit brisé de ce côté-là pour qu'on puisse vraiment poursuivre les auteurs des viols et pour qu'on puisse un bon jour éradiquer ce fléau.
Oui, madame, quels sont aujourd'hui les différents défis à relever dans la lutte contre les violences faites à la femme en RDC? Parce que j'imagine il y a plusieurs défis. Vous avez parlé tantôt là de cette succession de guerres qui au fait met de la partie est de la RDC dans une insécurité totale, et dans la plupart des cas ce sont des femmes et des jeunes filles qui sont victimes, donc pour ne pas parler des enfants aussi. Alors dans l'ensemble, globalement, quels sont les défis à relever pour lutter efficacement contre les violences faites à la femme en RDC?
Bon, ben, les défis à relever sont de plusieurs ordres, étant donné que les violences subies par la femme ne sont pas seulement les violences sexuelles. Et quant aux violences sexuelles commises dans les États, les zones de conflit, je crois qu'il faudrait absolument que les conflits cessent, que les bandes armées soient vraiment neutralisées. Et là, vraiment, on dit mort le venin, mort la bête, mort le venin. Et puis après, il faudrait vraiment qu'on puisse, dans les cas d'autres violences, il faut qu'on puisse vraiment vulgariser les textes qui protègent la femme pour pouvoir faire peser l'épée de Damoclès sur les auteurs. Et puis après, qu'on puisse créer une solidarité avec les victimes en sensibilisant tout le monde pour dire que les violences subies par la femme ne sont pas seulement les violences qui atteignent uniquement la personne, la femme, ça atteint toute la communauté, ça atteint toute la famille. Et c'est comme un cas de maladie, quand la mère est malade, vraiment toute la famille est affectée. Donc il faut vraiment qu'il y ait une solidarité au niveau de toute la communauté pour qu'on puisse vraiment se mobiliser pour pouvoir lutter contre ces violences.
Alors, oui, il y a entre autres l'impunité des viols et autres crimes, laissant un champ libre aux auteurs de viols.
Effectivement, mais c'est ça, c'est pour cela que vous savez que le gouvernement n'a pas seulement signé les textes. Je viens ici représenter les cas du gouvernement de la RDC. Dans le cas du ministère du genre, je représente la ministre du genre, Madame Inagossi, et Geneviève Inagossi. Et vous savez que tout ce temps-là, la lutte de violence faite à la femme, c'était une lutte portée par les ONG. Mais le gouvernement, fort de l'engagement qu'il a pris quant à la signature de tous ces différents textes, a eu à se concerter avec ses partenaires pour pouvoir voir comment juguler ce problème. C'est comme ça que le gouvernement a pris le problème de violence à bras le corps en élaborant avec ses pairs une stratégie nationale de lutte contre les violences faites à la femme, qui englobe une stratégie globale qui s'est basée uniquement sur les violences sexuelles élaborées par le gouvernement et la MONUSCO. Mais cette fois-ci, on s'est dit qu'il fallait vraiment se saisir de toutes les formes de violences, parce qu'il n'y a pas que les violences sexuelles, parce qu'on a toujours tendance à se baser sur les violences sexuelles. Il y a plusieurs formes de violences qui sont vraiment qui affectent la femme, donc des violences qui sont liées au conflit. Donc il y a les viols, l'esclavage sexuel, et puis il y a aussi les violences sexuelles commises en zone non non conflictuels, par exemple les incestes qui sont commis sur les enfants dans les milieux familiaux et dans les milieux scolaires. Il y a les violences socio-économiques, donc on prive la femme de ses droits et puis après il y a des pratiques rétrogrades. Il y a les violences domestiques qui sont des faits de us et coutumes. Alors donc le gouvernement s'est dit il faut vraiment qu'on puisse lutter d'une manière holistique contre toutes ces violences. Alors à ce moment-là, il y a des composantes dans ce cadre de la stratégie. Il y a la composante qui s'occupe de l'impunité. Donc l'impunité des auteurs, c'est un cas vraiment, c'est un problème qui nous tient vraiment à cœur. Alors c'est pour ça que nous travaillons de commun accord avec la justice pour qu'on puisse faire accéder les victimes à la justice et pour qu'on puisse ils puissent obtenir réparation des préjudices subis.
Oui, parce que la justice et réparation, ça pose toujours problème aujourd'hui, s'il faut vraiment les reconnaître. Des cas des victimes qui ne rentrent pas dans leurs droits, ils sont pas indemnisés. Et bon, c'est vrai que vous l'avez évoqué, il y a de moins en moins de cas de dénonciations, de cas de viol. Mais aujourd'hui, c'est vrai qu'on sent qu'il y a un déficit au niveau de disons l'impunité marche avec le manque d'indemnisation des victimes.
Bon, ben, vous savez, il y a beaucoup de choses à faire, hein. C'est la maladie, quand elle vient très très vite, mais pour obtenir la guérison, c'est une chose qui est assez difficile. Mais je vous assure que le gouvernement s'attelle vraiment à se verser dans ce cas de pouvoir vraiment éradiquer les violences, c'est-à-dire vraiment à se pencher sur l'impunité. Et alors il y a plusieurs mesures qui ont été prises pour pouvoir vraiment décourager les auteurs et décourager l'impunité. Et il y a des efforts qui sont en train de se faire dans ce sens-là.
Voilà, nous retenons donc les deux grands défis par rapport à ce que vous venez de dire, Madame que la persistance de l'insécurité causée par la présence des forces négatives, surtout dans l'est de la République, demeure un facteur qui favorise les violences à l'égard de la femme. Et notre défi, c'est l'impunité des viols et autres crimes laissant champ libre aux auteurs des viols. 081 890 43 39 pour participer à ce débat.
Parole aux auditeurs.
Nous commençons avec Siméon qui va ouvrir les débats du jour. Siméon est à Kolwezi au Katanga. Siméon, bonjour. Bonjour Siméon. Voilà, on prend Marcel qui est à Kisangani et puis il sera suivi par Amissi qui est à Kindu. Marcel, vous êtes avec nous, bonjour.
Bonjour, bonjour aux auditeurs de la radio Capi.
Voilà, Marcel, vous êtes avec nous. Quels sont les mécanismes, donc selon vous, à mettre en place pour éliminer en RDC les violences à l'égard des femmes? Je crois que vous venez de suivre Madame Rumbu, qui est notre invitée, et qui a abordé d'ailleurs la question avec des défis à relever, notamment la persistance de l'insécurité causée par la présence des forces négatives, surtout à l'Est, qui demeure un facteur qui favorise les violences à l'égard de la femme. C'est quelle impunité des viols et autres crimes laissant champ libre aux auteurs des viols. Quel commentaire faites-vous?
Ok, merci. Je crois que j'ai suivi notre invité avec beaucoup d'attention. Il est vrai que la récurrence des conflits...
Voilà, s'il vous plaît, Marcel, est-ce que vous pouvez éteindre votre poste récepteur pour qu'on s'écoute normalement?
Oui, ok, merci. Je me suis éloigné.
Voilà, allez-y rapidement. Donc, si vous vous éloignez, soyez vraiment loin de ce poste récepteur. Allez-y.
Ok, merci beaucoup. J'étais en train de dire qu'il est difficile avec la récurrence des conflits armés qui prévoit à l'est de la République démocratique du Congo qu'on puisse parler de l'éradication des violences sexuelles, puisqu'il y a d'abord plusieurs facteurs qui favorisent ces violences sexuelles. Nous avons, comme l'a dit notre invité, et il y a d'abord la récurrence de ces conflits armés. Il y a aussi plusieurs autres facteurs. Hein, ce qui est vrai, ce qui favorise encore davantage, c'est l'impunité de ces auteurs. Puisque comment voulez-vous que les gens qui pratiquent les violences sexuelles, pour qui ces violences sexe est devenu leur sport, qui du jour au lendemain commettent ces forfaits sur les femmes qui en sont victimes, et surtout dans les zones de combat, et que ces gens soient dénoncés, mais qu'ils ne puissent pas faire l'objet de poursuites judiciaires, puisque nous avions suivi par le passé que le magistrat avait subi une formation catassée, tout avec la nouvelle loi sur les violences sexuelles, qui devait déjà commencer à virgaliser sur le terrain, mais qui malheureusement, après cette formation, nous ne sentons pas du tout l'impact de ces lois-là, puisque nous avons des magistrats au vu de qui ces violences se commettent, ce qui est grave et qui est inacceptable. Je crois, par-delà la punition de violences, aussi qu'on mette fin aux conflits armés, puisque si on peut avoir une justice, mais il y a une récurrence des conflits armés. Voyez-vous-même, à l'est de la République démocratique du Congo, que plus de 20 magistrats ont été ramenés à Kinshasa à bord de l'avion, de la MONUSCO, tout simplement parce qu'ils étaient menacés. Donc, on se pose la question, à l'heure actuelle, à l'est, si de tels forfaits se commettaient, qui pourront, n'est-ce pas, déclencher des poursuites judiciaires à l'endroit de ceux-là qui seront présumés auteurs. Vous voyez que cette zone est restée vide. Et pendant qu'en même temps, se posent des actes qualifiés de violences sexuelles et qui malheureusement resteront impunis. Et c'est une affaire vraiment à déplorer. Je crois que le gouvernement doit prendre sa responsabilité pour pouvoir bien juguler ces problèmes, car ce sont des problèmes qui touchent justement à la vie familiale.
Voilà, merci Marcel. Votre inquiétude tourne autour de ces continuums d'insécurité à l'Est qui ne peut pas favoriser donc efficacement la lutte contre les violences faites à la femme. Et là, vous posez sans doute la question de savoir en ce moment comment fonctionnent les juridictions, donc les instances judiciaires. Parce que selon les informations que vous avez, il y a quelques juges et magistrats qui ont pris l'avion de la MONUSCO et qui sont rentrés à Kinshasa, et maintenant pour les cas de violences qui seront constatées ou qui seront enregistrées, qui pourrait en juger. Donc voilà, c'est votre inquiétude. On va échanger avec notre invité tout à l'heure par rapport à cette inquiétude. Merci Marcel d'avoir appelé. Amissi, vous êtes à Kindu. Bonjour.
Bonjour.
Oui, Amissi, vous avez suivi Marcel, qui a vraiment une inquiétude pour lui. Il pense que parler aujourd'hui d'une lutte efficace contre la violence faite à la femme, c'est vraiment trop rêvé. Est-ce que vous partagez cet avis, ou peut-être vous avez d'autres propositions quant aux mécanismes à mettre en place pour éliminer en RDC les violences à l'égard des femmes?
Ok, je l'avais suivi avec attention, mais je voulais seulement continuer de dire ceci. Il faut que notre gouvernement se mette en marge les paroles que M. Joseph Kabila avait dit auparavant, qu'il faut mettre en application les trois étapes là, politique, diplomatique ainsi que militaire, pour mettre fin à ce qui se vit à l'est de la RDC aujourd'hui. Et il faut que le gouvernement se prenne en marge et en charge de mettre en application les droits de la femme et d'assurer leur sécurité, et de dire aussi en notre et de parler aussi pour les gens qui continuent encore à mener les violences à l'Est, de se fermer et de laisser les femmes libres comme elles se laissent libres, et de mettre en application encore
Voilà, si je comprends bien, Amissi, votre inquiétude va dans le sens de pouvoir pacifier d'abord la partie est de la République démocratique du Congo, ce qui pourrait favoriser notamment efficacement donc la lutte contre les violences faites à la femme. Et aussi, vous avez évoqué l'application au fait des instruments juridiques que possède la République démocratique du Congo quant à la protection et la promotion des droits de la femme. Merci, Amissi, d'avoir appelé. Gabriel, vous êtes à Lubumbashi. Bonjour.
Bonjour aux auditeurs de la radio. De la...
Oui, Gabriel, si vous pouvez parler un peu fort, là, parce qu'on vous saisit à peine.
Oui, Monsieur Gilles, moi je voulais juste d'abord rappeler que il y a déjà des lois qui sont mises en place, la nouvelle loi sur les violences faites aux femmes. C'est une loi vraiment qui montre la volonté du gouvernement pour pallier à cette situation. Mais seulement, il se pose un problème de l'application, de l'applicabilité de cette loi. Donc, il y a parfois des négligences de la part des autorités judiciaires. Et pour cela, je voulais demander vraiment au gouvernement de mettre cette volonté-là en exergue pour riposter contre cette recrudescence de cas de violence faits à la femme. En plus de cela, je voulais aussi proposer, si possible, que le gouvernement puisse même travailler avec certains partenaires tels que des ONG sur la sensibilisation de femmes. Parce que parfois, ce sont les femmes eux-mêmes qui se rendent plus vulnérables, de sorte que parfois, ils sont parfois exposés à des violences, mais ignorant qu'ils ont le droit de dénoncer cela. Alors, voilà ce qui encourage de plus la répétition de telles infractions. En plus de cela, on ne peut pas finir dans un pays où il y a la guerre telle que dans notre pays actuellement. Je crois que on aura toujours à répétition la commission de cette infraction. Alors, le mieux à faire serait de pacifier d'abord l'est du pays et tous les pays, entre même chez nous, ici au Katanga, il y a des guerres, je ne sais pas si vous êtes au courant. Alors, les tests d'infraction, ces gens-là ne sont pas des anges, ce sont des humains. Alors, ils seront toujours obligés de commettre des tests d'infraction qui resteront impunis. Voilà,
merci beaucoup, Gabriel. Deli, nous rentrons ici à Kinshasa. Deli, vous êtes à Kinshasa, la ville-province de Kinshasa, donc vous voulez participer à cette émission. Bonjour, Deli.
Bonjour.
Voilà, Deli, comment vous réagissez par rapport à la question quels sont les mécanismes à mettre en place pour éliminer en RDC les violences à l'égard des femmes?
Oui, merci beaucoup pour m'accorder la parole. D'abord, je voudrais dire que, dans un premier temps, j'ai appelé pour intervenir à l'émission au premier sujet que vous venez d'échanger tout à l'heure. Mais pour ce qui concerne les violences faites aux femmes, je voudrais dire ceci. Vous devez savoir qu'il y a des lois qui sont fournies dans notre République, mais souvent ce qui manque, c'est la vulgarisation. Le gouvernement doit faire un effort, non seulement le gouvernement, tout le monde doit faire un effort pour vulgariser ces lois, pour que la population puisse comprendre ces lois. Parce qu'en comprenant les lois, on peut l'appliquer. Sans la compréhension, vous ne pouvez pas appliquer quelque chose que vous ne comprenez pas. C'est ça la première des choses. Et la deuxième des choses, c'est l'éducation dans les familles. Parce que la famille, c'est la base. C'est là que nous devons commencer pour que toutes les familles puissent fournir des efforts, éduquer ses enfants selon les règles et les normes pour comprendre que la femme, ce n'est pas un instrument, ce n'est pas quelque chose avec lequel il faut jouer, c'est vraiment une personne qu'il faut respecter, qu'on ne peut jamais violer. Et la troisième chose que je voudrais ici dénoncer, c'est le comportement de la femme elle-même. Je trouve que la femme, pendant que tout le monde est en train de lutter pour qu'on puisse mettre fin aux violences faites à la femme a quelques poids de comportement qui l'expose beaucoup. Parlant par exemple de la façon de s'habiller. Vous savez que la femme est vraiment devenue trop sexy plutôt. Pendant que nous sommes en train de lutter pour éliminer la violence faite à la femme, la femme doit aussi fournir cet effort pour ne pas exciter les hommes, pour ne pas chercher qu'elle soit exposée aux violences. Donc c'est ça. Donc tous nous devons lutter ensemble. On ne peut pas faire une chose et son contraire. Nous luttons pour cesser les violences faites à la femme et la femme.
Elle-même doit aussi participer.
De ce qu'on est en train de chercher. Voilà ce que je pouvais dire.
Merci, Deli. Donc là, vous appelez à la conscience de la femme, hein, elle-même, pour participer dans cette lutte, pour permettre à ce qu'on puisse, tant soit peu, arriver à éliminer des cas de violences faites à la femme. Donc là, vous avez évoqué trois choses. La vulgarisation, il y a un déficit au niveau de la vulgarisation et aussi un déficit au niveau de l'éducation dans la famille. Donc les familles doivent aussi prendre cette question à les corps, et vous avez terminé par le comportement de la femme qui souvent laisse à désirer, selon vous, et qui mène parfois aussi à des cas de violence à son encontre. Merci beaucoup, Deli, d'avoir appelé. Nous terminons cette première série avec Maurice qui est aussi à Kinshasa. Maurice, vous êtes à Kinshasa, bonjour.
Oui, bonjour, Gilles.
Voilà, Maurice, comment vous réagissez? Est-ce que vous allez dans les sens, vous abondez dans le même sens que Deli ou les autres, peut-être Marcel, Gabriel, qui sont très sceptiques hein, quant à l'élimination des cas de violence en République démocratique du Congo?
Oui, moi je voudrais, avant que d'aborder ou bien d'aller dans les sens de mes prédécesseurs, m'illustrer d'abord à le dernier cas en date, à Minova, je crois, il y a quelques jours seulement qu'on a annoncé le viol de, je crois, 10 femmes lors du débâcle de FRDC. Hein, pendant leur fuite là, ils ont violé, ils ont pillé des magasins des commerçants. Moi, je pense que dans ce pays, il y a un problème d'abord de l'absence de la sanction. À côté de cette problématique, il y a même cette inexistence de l'État. L'État dans ce pays n'existe pas. C'est-à-dire, s'il existe, il existe sur le plan plutôt structurel et non sur le plan fonctionnel. C'est ça qui fait même qu'il y ait la cause même majeure, même de la situation qu'on connaît à l'est du pays, où il y a les M23 qui peut entrer, il y a tout le monde qui peut venir au Congo, entrer comme il veut. Donc, parce qu'il y a de la complaisance, il y a vraiment absence d'un leadership fort. Les lois existent, JR. Les lois existent dans ce pays. Mais ce qui manque, c'est cette volonté politique de faire appliquer ces lois. Alors, donc, mon prédécesseur direct disait qu'il faut aussi dénoncer les comportements des filles par rapport à leur habillement. Moi, j'ai dit, bon, il n'a pas tout à fait raison. Parce que s'il faut prendre les cas majeurs de violations faites à la femme, c'est dans les zones de conflit, des zones en guerre. Alors, je pense qu'il y a des femmes qui vont au champ et qui sont violées. Est-ce que ces femmes-là s'exposent par rapport à leur tenue? Je ne pense pas. Alors, donc, les problèmes ici, c'est les problèmes d'abord de l'État. C'est Congo où on n'a pas un État responsable, un gouvernement responsable qui peut, au moins, avoir une politique répressive face à ces antivaleurs. Donc, notre pays s'illustre toujours dans les antivaleurs. Vous le savez, à chaque fois,
voilà, donc, Maurice,
on fait des classements.
Oui, Maurice.
On fait des classements, oui.
Maurice, si je comprends bien, pour vous, les violences faites à la femme dans les zones des conflits, ça, c'est une fatalité. Et c'est inévitable parce que pendant la guerre, c'est pratiquement des éléments incontrôlés qui posent ces genres d'actes et les femmes en sont victimes. Mais par contre, dans les zones où il y a quand même la paix relativement, il y a moyen quand même de lutter parce qu'il y a aussi d'autres formes de violences qui sont perpétrées.
Mais c'est ça, je suis en train de parler ici. J'ai commencé par parler de l'absence de la sanction. Mm-hmm. Quand il n'y a pas de sanction dans un pays, c'est-à-dire les antivaleurs, toutes les antivaleurs sont permises. Alors, moi, je ne vois pas pour quelle raison d'abord il faut commencer à parler de la femme qui est responsable, qui serait responsable de sa violence ou faite à elle-même. Mais les problèmes résident au niveau des dirigeants. Il y a des lois, oui, certes, il y en a, mais là, au niveau de l'applicabilité de ces lois, qui vont faire respecter, qui vont faire appliquer ces lois, si ce n'est pas d'abord les gouvernements. Hein? Il y a un problème d'abord de vulgarisation, on ne sait pas vulgariser, même la constitution du pays ici, donc vous pouvez chercher toute la ville, vous n'en trouverez pas. Donc on ne sait pas vulgariser parce qu'il y a déjà une intention machiavélique. À chaque fois, quand il y a des lois, on les garde comme si, comment ils gèrent les pays, garder de l'argent, tout ça, détourner. Ils pensent que même ce sont des lois, on détourne même des lois. Au lieu de les mettre
en public
pour que le peuple, bien la population, puisse s'enquérir pour une meilleure applicabilité.
Voilà,
alors, on garde ces lois, on ne sait pas les vulgariser. Et à la fin, maintenant, c'est vraiment...
Le résultat est celui-là. Merci beaucoup.
Normal,
hein? Oui, merci beaucoup, Maurice. Je crois qu'il y a même des auditeurs qui ont demandé pratiquement dans le même sens que vous, hein, en disant au lieu de dépenser ou d'investir dans les campagnes de vaccination en mettant beaucoup d'argent, ben, il faudrait également faire autant. Donc, quand il s'agit de la vulgarisation sur les lois ou les instruments juridiques hein, par rapport à dans chaque secteur. Merci, Maurice, d'avoir appelé 081-890-43-39 pour participer à ces débats.
Radio Capi, un partenariat entre la mission des Nations Unies pour la stabilisation en République démocratique du Congo et la Fondation Hirondelle. Avec le soutien du gouvernement de la Belgique, des États-Unis, de la France, du Royaume-Uni, de la Suède et de la Suisse.
Voilà, nous revenons à vous, Madame Rombou. Vous êtes directrice générale de l'Agence nationale de lutte contre les violences faites à la femme et à la jeune fille. Vous avez suivi tour à tour les intervenants de tout à l'heure. Il y a Gabriel qui est à Lubumbashi, qui parle de lois qui existent. Le problème, c'est l'applicabilité. Elle a été renchérie par d'autres auditeurs, notamment Maurice de Kinshasa, qui a parlé pratiquement de la même chose sur la vulgarisation. Il y a Deli qui est revenu en donnant trois inquiétudes, a parlé également de la vulgarisation et aussi Amissi qui a abondé pratiquement dans le même sens. Quelle est la position du gouvernement, vous qui êtes de ministère de genre et famille, et reconnaissez-vous qu'effectivement il y a un déficit au niveau de la vulgarisation, de lois qui existent?
Bon, ben d'abord, je remercie tous les intervenants, c'est-à-dire que la question de la violation des droits de la femme est vraiment une question qui est prise à cœur, qui préoccupe tout le monde. Alors, c'est les cas de Simon, les cas d'Amissi, les cas de Deli, les cas de Maurice. Je les remercie énormément. Moi, je dis que les gouvernements, effectivement, a mis en place des mécanismes de lutte contre les violences faites à la femme. Et effectivement, il y a à part les juridictions, mais il y a des textes que le gouvernement a fait. Je vous ai dit tout de suite là-bas que le gouvernement, cette fois-ci, s'était dit, je vais m'investir dans la lutte contre les violences faites à la femme. Le gouvernement a élaboré, avec l'effort de partenaires, la stratégie nationale de lutte contre les violences faites à la femme et à la jeune fille, la stratégie globale de lutte contre les violences basées sur le genre. Et alors, le gouvernement, c'est tout simplement, vous voulez appliquer les instruments qu'il avait à signer,
ratifier.
Et c'est la raison pour laquelle le gouvernement a inscrit dans la Constitution la parité. La parité vient de la Convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'endroit de la femme, la Convention nationale et la Convention des Nations Unies. Bon, et alors, cette stratégie, donc, reprend les recommandations est dictée par cette convention. Et alors, maintenant, le gouvernement se dit, nous avons bien élaboré cette stratégie, mais il faut mettre en place une structure qui doit rendre opérationnelle cette stratégie. Cette stratégie, cette structure, c'est l'Agence nationale de lutte contre les violences faites à la femme et à la jeune fille, la VIFEM que je pilote. Bien sûr, nous avons constaté qu'il y a vraiment déficit, méconnaissance des lois. Parce que une personne ne peut pas revendiquer ses droits s'il ne connaît pas les droits. Et une personne ne peut pas ne pas commettre une faute si la personne n'est pas informée sur les sanctions qui
existent. Mais les bourreaux courent les rues.
Justement, j'en viens. Donc, la VIFEM, pour le moment, a un rôle de prévention des violences. Donc, nous sommes en train de vulgariser les lois auprès, d'abord, des femmes, pour que les femmes puissent vraiment connaître leurs droits, les défendre et les protéger. Nous sommes en train de vulgariser pour que les auteurs sachent qu'il y a une loi, la loi 06/018, la loi 06/019 qui réprime les violences sexuelles. Bon, bien sûr, on édicte la loi, l'application c'est une chose, vraiment, comme il avait dit, ceux qui sont sur le champ de bataille, ce sont des hommes, ce sont des êtres humains avec leurs qualités, leurs défauts, et ceux qui sont dans la magistrature, ce sont des hommes qui avec leurs faiblesses et leurs forces. Mais il y a quand même, il ne faut pas quand même qu'on tire à boulet rouge sur le tas pour dire qu'il n'y a pas un leadership fort, etc., etc. Ça n'engage que, disons, l'auteur.
Oui, parce que l'inquiétude aussi, madame, parce que l'agence existe, c'est vrai, certes, dans des zones urbaines, à Kinshasa, vous êtes visible, mais à travers le pays. Et c'est vrai, pas seulement dans les zones à conflit, ailleurs, on peut aller à Kananga, à Mbujimaï, je peux citer d'autres villes, ou encore des milieux ruraux, où il faut vulgariser davantage les femmes. Est-ce que cette agence est
visible? Tout à fait, l'agence est toute nouvelle, L'agence est toute nouvelle, mais nous travaillons avec les ONG qui sont en place. Hein? La vulgarisation, le rôle de vulgarisation, c'est pas le rôle de l'État, ce sont les rôles des ONG. La vulgarisation de la Constitution, c'est pas le rôle de l'État, ce sont le rôle des chefs des partis politiques qui doivent savoir que si jamais ils doivent avoir du monde, il faut les informer.
Oui, les ONG viennent en appui, madame.
Bien sûr, les ONG viennent en appui. C'est tout à fait normal, ce sont les partenaires de l'État.
Il faut un matelas déjà au niveau du gouvernement.
Tout à fait, les matelas est là, les lois sont là, et le gouvernement, quant à la répression, vous savez que on a préconisé même, pour pouvoir accéder les victimes à la justice, d'amener la justice vers les victimes. C'est à ce moment-là qu'on a préconisé aussi des mesures des audiences foraines. Et vous savez que on transporte même les auteurs. Là où il n'y a pas de prison, on les transporte vers les lieux là où il y a des prisons. Ce sont des efforts qu'on est en train de faire. Bien sûr, je suis d'accord avec tout le monde quand on dit que il faut prévenir. Il vaut mieux prévenir que guérir. Si jamais on informe tout le monde sur les lois qui existent, je crois qu'on arriverait à réduire beaucoup de choses. Et puis effectivement, le rôle de l'éducation dans la famille. Et vous savez, on donne que ce qu'on a reçu. Quand un enfant est dans une famille, là où on commet énormément de violences, vous imaginez, ce sera qui l'adulte plus tard. Ce sera l'adulte qui va porter ce qu'il a eu dans la famille. Et puis après, il y a des cas qui se font dans les familles, des incestes qui se font dans les familles. On les tait. Alors, quand on tait ces incestes dans les familles, est-ce qu'on encourage la punition? Parce que l'impunité vient de là aussi. Donc, il faut dénoncer. Quand on dénonce, quand on brise le silence, c'est qu'on porte l'affaire devant le public, et quand on porte l'affaire devant le public, eh bien le public porte l'affaire vers les lieux des centres.
Voilà, on va continuer, il y a beaucoup d'auditeurs, hein, madame, vous allez continuer à répondre à leurs préoccupations. Il est temps de prendre une deuxième série.
J'ai pas encore fini, parce qu'effectivement, nous savons que dans les zones en conflit, le conflit, c'est comme par exemple un voleur qui entre dans la maison. Qu'est-ce qui va empêcher un voleur d'entrer dans la maison? C'est très difficile. Quand le voleur décide d'entrer dans la maison, il entre dans la maison, il fait ce qu'il veut. Mais c'est la même chose avec les bandes armées. Nous demandons à nos partenaires, à tous ceux qui nous suivent, à tous ceux qui sont avec nous, avec tous ceux qui sont avec la RDC, qui aiment la femme, qui aiment que la femme soit protégée, d'aider à ce que les bandes armées n'existent plus.
Voilà, c'est comme la réaction de tout à l'heure de Maurice qui parle de l'inexistence de l'État, l'absence de leadership fort, les lois existent, c'est l'applicabilité. Donc, en fait, c'est pour amener, pour établir la paix, et ça pourrait donner les résultats. On pourrait réduire, si pas totalement, mais au moins aller vers l'élimination, hein, oui, ou la réduction quand même des cas des viols. Madame, oui. On va accorder d'abord la parole à Bénin, qui est à Kinshasa, Arsène, qui est à Kikwit, et Jean-Pierre, qui est également dans la capitale. Bénin, vous êtes avec nous, bonjour. Oui, Bénin, vous avez suivi dès le début, vous voulez réagir par rapport à cette question. Selon vous, quels sont les mécanismes à mettre en place pour éliminer à RDC les violences à l'égard des femmes? Mais si vous pouvez, d'entrée de jeu, déjà nous donner aussi quelques défis, selon vous, hein, qui font qu'aujourd'hui la lutte contre les violences faites à la femme puisse poser problème. Oui, si vous pouvez parler un peu fort, Bénin. Parlez un peu fort.
J'ai des propositions selon le classement des cas de viol que j'ai mon ami.
Voilà, on ne comprend rien du tout. On a un problème là avec votre téléphone. On pourrait peut-être vous rappeler plus tard. Arsène, vous êtes à Kikwit. Bonjour Arsène. Arsène, vous êtes avec nous. Bonjour Arsène.
Je suis en train d'écouter. Alors, moi, mon intervention va consister plutôt à me lancer un peu vers la femme elle-même et puis les responsabilités qui incombent le gouvernement ou l'État qui est responsable de la population congolaise. Vous savez, monsieur, des fois, c'est décourageant. Voyez un peu votre émission. Nous sommes en train de passer nos avis, nos idées sur cette émission. Il y a combien de femmes qui ont déjà intervenu? Parce que ce sont elles des victimes.
Ah, yeah. Là, c'est oui, dommage, c'est dommage.
Elle est en train de brandir toute une stratégie établie. Il y a le gouvernement avec ses lois et tout comme ça. Moi, je trouve que tout ça, c'est la distraction pure et simple. La distraction, pourquoi? Parce que nous devons sentir où se trouve la responsabilité. La responsabilité, ce n'est pas l'homme seulement. La responsabilité, c'est la société elle-même. Maintenant, on est en train de taquiner les hommes, taquiner les hommes. Mais voyez un peu le sens de l'organisation de la société. Commençons par le gouvernement et nous allons en terminer par la femme elle-même. Le gouvernement est irresponsable. Pourquoi il est irresponsable? Parce qu'il ne sait pas mettre en application tout ce qu'ils sont en train de réfléchir, de raisonner, d'écrire là-bas. Il y a un grand fossé et l'applicabilité. Je crois qu'un des auditeurs l'a dit. Un grand fossé. Mais comment on peut atteindre l'applicabilité facilement? Il y a manque de responsabilité quelque part. Il y a manque de responsabilité. L'État, aujourd'hui, la première personne qui se prostitue, c'est l'État congolais. L'État congolais est prostitué. L'État congolais est irresponsable. Mais quels sont les teneurs de cet État-là? Mais ceux qui sont là-bas, qui ont des responsabilités, qui se sont dit, écoutez, nous avons été élus, voilà ce que nous avons fait, et ils ne font rien. Conséquence, la guerre. Conséquence, l'indiscipline. Conséquence, et tout ce que nous en voyons, que je peux appeler la voyoucratie. Conclusion, la femme est violée, la femme est violentée. Elle-même, la femme. Quelle est la possibilité que la femme offre elle-même pour qu'elle ne soit pas violentée, pour qu'elle ne soit pas violée? Regardez comment elle s'habille dans la rue. Regardez. Regardez comment elle se comporte. Il y a un minimum de femmes qui se mettent peut-être à chercher des solutions. Mais la femme est devenue vulgaire, excusez-moi le terme, mais chers compatriotes, femmes, je ne suis pas contre vous, mais j'aimerais bien que, aussi que vous participiez à cette émission pour qu'on puisse débattre de vos cas. Vous ne voulez pas. Alors, qu'est-ce que nous allons faire? Nous sommes taquinés, nous les hommes, parce que nous passons, la femme est violée
oui,
par l'homme.
Oui, Arsène, donc j'ai compris que vous parlez de la responsabilité d'abord de tout le monde, la responsabilité partagée. Vous avez parlé du gouvernement, vous avez parlé de l'homme et aussi de la femme elle-même. Parce qu'il y a vraiment des choses à redire là-dessus. Merci beaucoup, Arsène. Et nous prenons Jean-Pierre qui est à Kinshasa. Jean-Pierre, bonjour.
Bonjour à vous et bonjour à toutes les femmes de notre pays.
Voilà, Jean-Pierre, comment vous réagissez?
Bon, moi, je ne m'oppose pas à ceux qui disent que l'habillement des femmes peut influer et les hommes poussent, que ça pousse les hommes à violer les femmes. Mais j'ai dit quand même qu'en Afrique, nous avions pris les habillements avec les blancs, mais en étant des natifs, nous, les Africains, nous étions nés, on ne s'habillait pas. Je ne sais pas pourquoi les gens tiennent toujours à cet argument-là. Et pourtant, nous, les Africains, nous étions habitués à être nés et il n'y avait pas cette affaire. On respectait nos mœurs. Et moi, je pense que les problèmes se posent à des niveaux. D'abord, il y a des violences qui, en temps de guerre, à des places où il y a la guerre, mais il y a des violences faites à la femme dans la vie courante. Et pendant des guerres, vous allez voir que les personnes qui combattent pendant la guerre, ils utilisent la violence faite. Ils sont en train de violer des femmes comme une guerre. Ils sont en train de vouloir affaiblir les femmes. Ils sont en train de vouloir affaiblir les femmes des milliers qui sont en train de conquérir. Et vous voyez qu'avec ça fait que les femmes puissent fuir et ils poussent leur mari à se déplacer et qu'on sort. Mais aussi les militaires congolais, pendant des guerres, nos militaires eux-mêmes qui sont censés protéger la population, ils sont le plus souvent en train de violer, piller et faire beaucoup de choses. Ça aussi, ça pendant des guerres, ça influence beaucoup la violence faite à la femme.
Oui,
et
oui,
aussi,
oui.
Dans
oui.
La vie courante, nous pouvons par exemple citer l'impunité. Les personnes qui violent aujourd'hui, vous voyez une personne qui a violé il y a quelques jours, il a été au niveau du tribunal, il fallait qu'il mette 2 ans en prison, mais après 6 mois, 2 mois, vous les voyez encore sortir et il vient encore menacer la famille qu'il a arrêtée. Les militaires, les policiers qui sont censés mettre en application les lois et se constituer encore à des meilleurs violeurs. Bon, il y a aussi des magistrats et les juges de nos tribunaux, que ce soit des tribunaux militaires et des tribunaux civils. Vous allez voir que les personnes viennent se plaindre et les résultats qu'ils prennent après, on leur propose, on néglige leur affaire, alors les gens font plus. Il propose plus de résoudre l'affaire à l'amiable, puisqu'il pense qu'à l'amiable, bon, on peut quand même, on peut payer certaines choses, remettre quelques coques ou des porcs ou chèvres à la famille, et il pense que là, quand même, il se retrouve qu'il est allé au tribunal, puisque ce sont plus des personnes qui violent, qui payent de l'argent là, et l'affaire, s'il est corrompu, ça se résout là-bas. Et aussi, nous trouvons des situations dans lesquelles l'État congolais, même, et les femmes, et les hommes en prison ensemble. Vous voyez une personne qui est condamnée pour 20 ans, pour 10 ans, il se retrouve avec une femme en face de lui, et combien de jours il n'a pas vu une femme, ça peut toujours les pousser à vouloir sauter sur cette femme-là.
Voilà, merci beaucoup Jean-Pierre. On retient qu'il y a beaucoup, de choses. Vous ne partagez pas l'avis hein, selon lequel que les comportements de la femme elle-même, qui peut être un facteur aussi qui occasionne les cas de violence, vous décriez plutôt les comportements des auxiliaires de la justice qui sont censés faire la promotion de lois portant protection et promotion des droits de la femme. Et ces mêmes auxiliaires de la justice commettent des actes de violence. Merci Jean-Pierre. Nous allons prendre Bénin et Jean dans quelques instants, mais d'accorder d'abord à notre invité la parole, parce que déjà à 50, comme ça il peut ramasser rapidement. Bon, on termine d'abord avec Bénin. Ok, Bénin, vous êtes très, très impatient. Bénin, vous êtes à Kinshasa, bonjour.
Bonjour.
Voilà, comment vous réagissez, Bénin?
Ok, je ne dirai rien de nouveau par rapport à mes prédécesseurs, mais au moins quand même les renforcer. Pour le cas de viol, en cas de conflit armé, j'aurais proposé ceci. Parce que chaque rébellion prétend combattre le pouvoir. Donc lorsqu'on recherche le pouvoir, on ne vient pas chercher les femmes. S'il y avait une structure, ça c'est une initiative que madame doit peut-être prendre en compte pour faire des démarches, qu'au niveau des Nations Unies ou de l'OTAN, je ne sais pas, qu'on donne une loi selon laquelle tout militaire, dans tout état qu'il soit, qui est rebelle et qui s'en prend à la femme, on la met directement à la CPI. Ou carrément aussi, prendre le chef militaire avec ses alliés, par exemple, dans notre cas où on accuse le Rwanda, que les chefs de rebelles essaient quand même d'instruire leurs éléments qui sont au front, que notre but est, dans la discipline militaire, quel que soit chez les rebelles ou chez les militaires de l'armée régulière. De deux, pour le cas d'un viol qui ne sont pas pendant les guerres, il y a un cas, par exemple, à Kinshasa aussi, nous avons eu entendu toujours dans vos radios qu'il y a même certains députés qui seraient victimes des cas de viol. Auteurs plutôt que victimes. Alors, vous voyez, quand un homme politique viole, on doit attendre faire des cérémonies, il faut qu'on lève l'immunité, il faut que... Tout ceci n'encourage pas les femmes. Madame est là, peut-être qu'elle n'a pas l'empressement là, de dire la vérité, parce qu'elle est d'un ministère, elle doit représenter le gouvernement.
Oui, allez-y rapidement, Bénin.
Non. La proposition, c'est que tout homme qui est victime, à qui auteur...
Et qui commet un cas de viol pendant la guerre...
doit être considéré comme on prend les cas de crimes contre l'humanité. Et il ne faut pas attendre.
Ben oui, mais...
directement civil, voilà, militaire, rebelle ou de l'armée régulière.
Oui, nous l'avons dit tout à l'heure, Bénin, on va peut-être rappeler les résolutions 1325, 1820, 1880, 1889 et la convention relative à l'élimination des discriminations à l'égard de la femme qui est entrée en vigueur en RDC depuis 81. Voilà, donc il y a plusieurs conventions hein, qui normalement relatives à la protection des personnes civiles en temps de guerre. Donc je crois que c'est l'applicabilité comme vous l'avez dit et aussi les suivis du côté de ceux qui gouvernent. Merci, Bénin. Jean, vous êtes à Colosi. Bonjour.
Bonjour, merci. C'est Jean Dambochi.
Oui, Jean Dambochi.
J'ai une proposition
allez-y.
À faire. Mais avant de poursuivre avec ma proposition, je voulais d'abord dire ceci.
Oui, allez-y rapidement parce qu'on n'a plus assez de temps. On n'a plus assez de temps. Si voilà. Vous n'avez que 40 secondes.
Voilà. Quelque part dans la Bible, on dit « La justice élève la nation ». Alors aujourd'hui, dans notre pays, nous avons de belles lois qui protègent nos chères mamans. Alors aujourd'hui, on se demande la question si c'est par manque de gens capables à faire respecter nos propres lois qui protègent nos mamans, et raison pour laquelle la violence persiste encore. À part ça, ma proposition, c'est-à-dire quoi? Je demande au gouvernement congolais d'installer un programme au niveau scolaire, un programme qui doit s'intéresser à la non-violence, où les enfants peuvent étudier la non-violence comme tous les autres cours. Puisque par là, les enfants auront la chance d'étudier la politesse, le respect des autres, et ainsi de suite. Je vous remercie.
Merci beaucoup, Jean Dambochi. Jules, vous êtes le dernier auditeur à intervenir dans ce débat. Bonjour, Jules.
Bonjour, monsieur le journaliste.
Vous avez la parole, Jules.
Bon, moi, j'allais dire ceci. D'abord, lorsqu'on parle des violences sexuelles, la violence faite aux femmes, quelles sont les causes qui sont à la base de la violence sexuelle? La réponse, ce sont des conflits armés. Quelles sont les causes de ces conflits armés? Alors, moi, je pense que notre pays, nous avons une maladie incurable. Quelle est cette maladie? C'est le non-respect des textes. On peut voter des milliers de lois, mais lorsqu'elle n'est pas mise en application, cela montre l'irresponsabilité d'un pays. Parce que toutes ces femmes-là, aujourd'hui, on parle de la violence sexuelle, mais toutes ces femmes-là seront protégées par quoi? Par la loi. Et cette loi n'a jamais été mise en application. Donc, comment les femmes seront protégées? Ils seront toujours violées chaque jour, à tout moment. Donc moi, je pense que si nous avons des bons chefs, des bonnes autorités dans ces pays, nous devons mettre les respects des textes. Même la guerre qui est à l'Est actuellement, il paraît c'est le non-respect des textes. Alors, lorsqu'il n'y a pas le non-respect des textes, ce sont des femmes qui sont exposées à être violées à tout moment. Qu'est-ce que nous cherchons encore dans ces pays? Qu'est-ce qui marche dans ces pays au juste? Lorsque les lois n'est pas mise en application.
Voilà, merci beaucoup.
Qu'est-ce que les lois seront mises en application?
Merci beaucoup, Jules, d'avoir appelé. Et nous disons aussi merci à Olivier Dekikuit, hein, qui, en fait, qui s'était inscrit pour participer à ces débats. Donc, dommage, on n'a plus assez de temps. On ne pourrait pas le prendre aujourd'hui. Donc, ce n'est qu'une partie remise. Nous revenons à vous, Madame Rombou, pour la conclusion avec toutes les interventions des uns et des autres.
Merci beaucoup. Je remercie Jean-Pierre qui a un peu résolu le problème de l'irresponsabilité de la femme quant à l'habillement de la femme. Alors, je pose même la même question parce que Jean-Pierre a bien soulevé, l'avait dit. Avant que les colons arrivent avec des habits, les gens se promenaient nus. Est-ce que c'est à ce moment-là, c'est-à-dire que notre société à ce moment-là était plus sexiste et violeur? Bon. Je pose la question. La petite fille qui est dans la maison de ses parents, on vient voler dans la maison de ses parents. On prend la petite fille de 8 ans, on la viole. Elle a porté quel habit pour pousser ce violeur à cet acte-là? Alors donc, cessons de parler de... On sait qu'il y a la responsabilité de la femme dans ce sens-là. Et on est en train de faire des sensibilisations pour que la femme puisse se comporter d'une manière responsable. Mais quand la femme va au champ pour pouvoir aller chercher de quoi vivre, quand la femme sort le matin pour aller acheter du pain pour pouvoir
prendre... la rivière,
alors, elle a des problèmes. Donc, c'est notre société qu'il faut éduquer. Il faut débarrasser dans la tête des hommes que la femme n'est pas un animal sur qui on peut sauter sans consentement. Mais bien sûr, le problème des leaderships du gouvernement, mais je vous dis, le gouvernement est en train de faire un effort extraordinaire. J'ai oublié de vous parler qu'il y a les efforts qu'ils sont en train de faire dans la réforme des secteurs de la justice, de la magistrature, des secteurs de réforme de la police, de l'armée. On est en train de former tous ces gens-là quant au respect de la femme, quant à l'application de la loi 06/018. Donc, il y a des hommes en armes, des officiers qu'on a pris la main dans les sacs, qu'on a transférés en prison. Donc, il faut pas changer de cadre et aller dans les leaderships politiques, etc., etc. Nous savons très bien qu'il y a la responsabilité, bien sûr, partout dans le monde, il y a les lois, mais les lois qu'on a dit, ce sont difficiles à appliquer. Mais alors, il faut faire un effort. Donc, le gouvernement est en train de faire un effort, la société civile est en train de faire un effort, les organisations sont en train de faire un effort. Mais ce qu'il faut vraiment, il faut différencier les problèmes qui se passent sur le terrain, les gens qui vous envahissent dans votre pays parce qu'ils envient vos minerais, ils envient vos affaires comme ça, et puis ils veulent vous assujettir, ils veulent atteindre l'homme dans sa dignité, c'est-à-dire dans ce qu'il a le plus cher, la femme. Alors donc, on a déjà décrié depuis très longtemps que les viols, c'est un crime contre l'humanité. Alors je remercie Bénin, qui parle de traduire tout le monde, tout militaire qui est là. Il est là pour conquérir le pouvoir, il n'est pas là pour pouvoir marcher, se servir de la femme comme champ de bataille. Eh bien, tous ces gens-là, quand on les prend les mains dans les sacs, eh bien, on les transfère à ces pays. Bon, effectivement, et il parle aussi de la sensibilisation des chefs des armées pour sensibiliser leur population, leurs troupes. Eh bien, c'est le fort que nous sommes en train de faire. C'est ce que nous devons, ce que nous voulons. Il ne faut pas toujours essayer de tirer à boulet rouge. pour dire que l'État ne fait rien. Mais quand vous amenez des propositions, amenez des propositions pour que nous puissions marcher ensemble.
Voilà, merci beaucoup Madame Rumbu. Nous rappelons que vous êtes directrice générale de l'Agence nationale de lutte contre les violences faites à la femme et à la jeune fille. Quand, disons, l'opinion aimerait bien dénoncer quelque chose, ils peuvent le faire à l'adresse de l'agence.
Tout à fait, tout à fait.
Qui travaille au ministère de
Genre et Famille. Qui travaille au ministère de Genre, Famille et Enfants.
Ok, donc c'est quoi l'adresse?
L'adresse, c'est le ministère du Genre, Famille et Enfants, qui se trouve sur le boulevard.
Ils peuvent envoyer ça sur votre site?
Ils peuvent envoyer sur notre site, effectivement. Je vais vous laisser là.
Voilà, on va communiquer ça même.
Nous allons communiquer après. Ça.
Voilà, donc nous disons que vous êtes la directrice générale de l'Agence nationale de lutte contre les violences faites à la femme et à la jeune fille. Merci d'avoir accepté notre invitation et à la prochaine.
Merci beaucoup.
Allô? Allô? Mais ils ne répondent pas?
Voilà, merci à tous d'avoir participé à ces débats. Merci également à Héritier Sidia Gala qui a assuré la mise en onde de cette émission. Titi Poutou et Pierrot et Lamégi l'ont réalisé. J.R. Lungembo vous l'a présenté et coordonné sous la supervision de Nicole Gaga. Réécoutez cette émission sur www.radiocapi.net. Au Bas-Congo, les élections du gouverneur organisées le mois dernier se sont soldées sur fond des contestations. La requête en annulation du scrutin introduite à la cour d'appel de Matadi par le gouverneur sortant mettait en cause la qualité de deux députés provinciaux qui ont participé aux deux tours du scrutin. Selon certains observateurs, ceci peut avoir un effet contagion dans d'autres provinces qui organiseront prochainement les élections pour élire leur gouverneur. Selon vous, que faut-il faire pour prévenir ces genres de situations à l'avenir? Parole aux auditeurs en parle demain. Inscrivez-vous pour participer au débat en composant les 081 890 6315. A très bientôt.